comme nous allons ce soir nous préparer pour vivre l'heure sainte ici, et pour que nous soyons bien introduits à ce moment de prière et de cœur à cœur avec Jésus lui-même, qui nous invite à l'accompagner au Jardin des Oliviers, eh bien, nous voulons vous proposer d'écouter, d'entendre le propre témoignage de Marguerite Marie. Mais c'est une sœur de la Visitation qui s'appelle Marguerite Marie, qui est vivante, elle. La sainte Marguerite Marie, eh bien, elle est plus vivante. Hein. Sauf que son âme, enfin, elle est là quand même avec nous, elle prie. Et pour entrer dans cette retraite qui a comme titre, comme thème, tous saints, bien, c'est une bonne occasion de voir comment elle-même, cette sainte Marguerite Marie, n'est pas devenue sainte en une journée. Il lui a fallu du temps. Merci, ma sœur Marguerite Marie, de nous aider à accueillir ce témoignage de notre grande sœur, votre sœur, celle qui a transmis à l'Église entière l'amour du cœur de Jésus qui nous rend saints.
Bonjour à tous. Le Père Paul me demande un exercice difficile parce que, en une demi-heure, retracer un parcours spirituel aussi intense. Bon. Donc, pas guère le temps de faire des commentaires. Nous allons tout bonnement suivre les grandes étapes. 4, 5, 6 ans, la petite Marguerite fait de longs séjours au château de Corcheval. C'est à 4 km de sa famille, son père l'y conduit souvent et sa marraine, qui l'invite, aime bien s'occuper d'elle, car celle-ci se sent un peu seule. Ses fils sont partis aux armées et sa fille est entrée il y a 6 ans à la Visitation de Paray-le-Monial. Marguerite est une petite fille très attentive et réfléchie. Elle écoute les conversations des adultes. Elle entend ainsi parler de vœux religieux, vie de prière, consécration à Dieu. Et spontanément, Dieu l'attire. Elle lui parle. La petite chapelle du château est tout près dans le jardin. On lui a dit que Jésus est là, dans le tabernacle. Alors, souvent, elle va passer de longs moments toute seule dans la chapelle. C'est un bonheur pour elle. Un jour, pendant la messe, elle dit dans son cœur, « Oh mon Dieu, je vous consacre ma pureté et je vous fais vœu de perpétuelle chasteté. Cela aura une importance dans sa vie, même si elle comprendra très bien par la suite qu'elle n'était pas engagée puisqu'elle ne savait pas ce qu'elle disait. Retenons simplement cette liberté de l'enfant à se tourner vers Dieu quand on lui a montré que Dieu le connaît et l'aime personnellement. 8 ans et demi, bouleversement complet dans sa vie. Elle est plongée dans une grande détresse. Son père meurt en quelques jours, jeune et en pleine activité. On habite toujours le village de Vérovre, à une 15 km de Charolles. Mais plus rien n'est comme avant. Il faut laisser l'oncle Toussaint s'installer dans le petit pavillon de maître où la famille vivait jusque-là heureuse. On doit déménager à la ferme en face. Sa mère, aux prises avec d'énormes difficultés financières, ne peut s'occuper d'elle. Pour comble, sa marraine, devenue veuve, s'est très vite remariée. Elle habite désormais au loin et ne revient plus au château de Corcheval. Quant aux grands frères, ils sont tous pensionnaires. Tout son univers est disloqué. Pendant des mois, elle se sent abandonnée. Enfin, elle est mise chez les Clarisses de Charolles qui tiennent un pensionnat de petites filles. Elle fait ses délices de l'enseignement religieux et fait sa première communion avec beaucoup de ferveur. Elle voudrait devenir sainte, comme les Clarisses qui s'occupent d'elle. Mais hélas, sa vie d'enfant a été bien trop secouée. Au bout d'un an et demi, elle tombe dans un pitoyable état de maladie et elle doit rentrer en famille. Troisième étape. La voilà alitée, grabataire, jusqu'à 13 ans et demi. Soignée avec amour par sa mère, mais elle est coupée de tout. Sa grande consolation, la lecture. Elle dévore la vie des saints, ne lit pratiquement que cela. Et il faut voir ce que l'on dit à l'époque dans tous les livres de la sainteté et des moyens d'y parvenir. Il faut le connaître, car ça explique beaucoup de choses dans sa vie. Des choses qui nous semblent aujourd'hui obscures. Dans ses livres, l'éclairage est mis en plein sur l'austérité admirable, la rudesse d'ascèse, toutes plus généreuses les unes que les autres. On y présente en quelque sorte la sainteté à la force du poignet. Autour d'elle, on est chrétien, bien sûr, mais avec toute l'âpreté d'une époque difficile et peu instruite des choses spirituelles, où la pratique religieuse se réduit souvent à un légalisme bien desséchant et où on ne cherche pas à aller plus loin une fois qu'on a rempli ses obligations chrétiennes. Marguerite, elle, veut être sainte. Mais ce milieu a fait tomber sa spontanéité confiante de sa petite enfance. Heureusement, il y a la Sainte Vierge. Je n'osais point du tout m'adresser à son divin Fils, mais toujours à elle. Quatrième étape, adolescente. Elle guérit, et guérit complètement, aussitôt après avoir promis à la Sainte Vierge de devenir une de ses filles, en entrant dans la vie religieuse. Dès ce moment, elle est fermement convaincue qu'elle doit trouver un ordre religieux de spiritualité profondément mariale. Et elle veut énergiquement s'y préparer et devenir sainte. Mais elle sent sa faiblesse. Et ce sera une longue période de grands combats. Car la vie quotidienne est devenue très difficile pour elle depuis sa guérison. En cause, la mésentente assez dramatique des adultes qui l'entourent. les problèmes d'argent ont pris une importance démesurée. Or, il y a conflit d'intérêts. On peut même parler de guerre ouverte. Alors que l'on vit sous le même toit, que l'on mange à la même table, tout en ayant coutume de vie et culture complètement opposées. Seul son père décédé, aîné de la famille, avait fait des études, et de très bonnes études, comme les font à présent ses frères. Tout le reste de la famille paternelle, avec qui l'on vit, ne sait ni lire ni écrire. Même l'oncle, qui compte parmi les notables du village, est incapable de seulement signer son nom. Rien d'étonnant à ça. C'est la situation de la plupart des Français dès lors qu'ils n'habitent pas en pleine ville. Oncle et tante sont propriétaires de plusieurs fermes. Ils ont des métayers, des ouvriers agricoles, et tous les soucis qui s'y rapportent. Madame à la coque vient de la ville. Elle est fille et sœur de notaire, comme l'était son mari, comme le deviendront ses fils. La mère et les frères de Marguerite ont une bonne culture littéraire et juridique. Et elle-même en fait son profit. Se développent donc ouvertement des jalousies, totale incompatibilité d'humeur, or on vit sous le même toit. Contraste d'une vie qui se laisse guider par Dieu. Cela va devenir pour Marguerite le point de départ d'une ascension spirituelle parmi les plus étonnantes. Bien sûr, il y en a d'autres dans l'histoire de l'Église, mais c'est une de celles dont il nous reste les documents permettant le mieux de la suivre pas à pas. Et voilà que ça ne va pas du tout se passer comme elle l'avait imaginé. De par la situation familiale, Marguerite est une adolescente en grande souffrance. Elle se réfugie dans la prière. Et le plus important, sûrement, elle va discerner comment renverser ces circonstances pénibles, les vivre de façon positive. Elle a compris que ce qui blesse le plus l'amour de Dieu, c'est toute atteinte à la charité. Alors, elle choisit le parti de l'amour du prochain à quelque prix que ce soit. Et elle ne reviendra jamais dessus. Tout ce qu'elle vit de pénible devient désormais à ses yeux préparation à sa future vie monastique. Et grand-mère, oncle et tante, qui la persécutent réellement, seront les meilleurs amis de mon âme, puisqu'ils la font grandir dans l'amour, vaincre pas à pas les obstacles qu'elle voit bien être en elle. Car des obstacles, elle en voit. À cette époque de sa vie, elle fait cruellement l'expérience de sa propre faiblesse. Dans la souffrance, elle connaîtra toute une période, on dirait aujourd'hui, d'anorexie. Une période de refuge dans la solitude pour fuir ses responsabilités. On lui reproche, par exemple, de mal s'occuper des enfants, les petits cousins dont on l'a chargée. Repli sur elle-même. Et pendant de longs mois, ça reste plus fort qu'elle. Mais le Seigneur la dirige, éclaire sa conscience, et elle en sort résolument. Elle se dévouera, catéchisant des enfants, secourant des malades, des familles pauvres. Les 5e étape. Les 5 dernières années de sa vie de jeune fille, ce sont des combats familiaux incessants pour réaliser sa vocation. On veut à toute force la marier. Et elle est demandée plusieurs fois en mariage. Le curé de la paroisse lui fait un gros cas de conscience de vouloir abandonner sa mère. La voilà tellement tarabustée qu'elle ne sait plus ce qu'elle doit faire. C'est l'époque où elle finit par accepter des soirées dansantes et trouver quelques complaisances. Elle se les reproche ensuite comme de grandes vanités. Puis, on veut au moins, si on ne peut la détourner d'être religieuse, au moins qu'elle soit dans un monastère connu où elle retrouve de la famille. Son idée à elle est d'entrer dans la vie religieuse pour faire pénitence, pour expier ses péchés, ses médiocrités, pour expier les péchés des autres, car ça lui fait mal de voir tant de manque de charité autour d'elle, tant de circonstances où les lois de Dieu sont bafouées. Au temps du carnaval, par exemple, occasion de fort nombreux débordements de toutes sortes, elle voudrait se mettre en pièces à force de jeûnes et multiples austérités physiques pour racheter les péchés qui se commettent. Elle est très généreuse et souvent imprudente. Enfin, à 23 ans passés, la voilà libre d'entrer dans un monastère. 6e étape, début de la vie religieuse. Mais le Seigneur a ses idées. Il choisit pour elle précisément l'ordre qui, dans l'Église, met le moins en valeur les austérités physiques. Elle ne s'en rend même pas compte, tout à la joie d'avoir trouvé son monastère. Parce que dans le pays, les sœurs de la Visitation sont appelées couramment les filles de Sainte Marie. Et elle n'a aucun doute, car avant son entrée définitive, la première fois qu'elle met les pieds au monastère, elle entend une voix, clairement, au-dedans d'elle-même. « C'est ici que je te veux. » Elle mettra tout en œuvre durant son noviciat pour entrer dans l'esprit de ce qui lui est demandé par ses formatrices, découvrant que ce n'est pas par la grandeur de nos actions que nous plaisons à Dieu, mais par l'amour avec lequel nous les faisons. De saint François de Sales. Ce n'est pourtant que lentement qu'elle quittera la recherche de mortification volontaire pour en arriver à ne rien demander et ne rien refuser de tout ce que le Seigneur lui présente à travers chaque événement, cherchant simplement à l'aimer en s'unissant à toutes ses volontés selon ce qu'enseignent les saints fondateurs de la Visitation. Ce sera donc la trajectoire de toute sa vie religieuse. Et cela représente un changement de perspective assez radical dans la conception qu'on avait de la vie monastique à cette époque. Saint François de Sales avait initié ce chemin. Le Seigneur fera comprendre par la suite qu'il avait lui-même guidé la fondation de notre ordre dans un but: préparer le terrain à la manifestation de son cœur. Nous ne racontons pas ce soir les grandes apparitions, mais soulignons simplement un point de la dernière, dont souvent on ne saisit pas bien toute l'importance. L'amende honorable ou réparation d'honneur. En parfait éducateur, le Seigneur lui parle avec le langage et les images qu'elle connaît bien, elle, fille, sœur et nièce de notaire, des notaires qui exercent la justice royale. L'amende honorable, c'est la réparation de celui qui n'a pas de quoi payer, qui s'en remet totalement à la miséricorde par un acte public où il reconnaît à la fois sa dette et son incapacité. Et le juge déclare qu'il a ainsi satisfait en justice et qu'il est quitte désormais. En 1675, quelle action Jésus va réclamer pour réparation? Qu'on célèbre la fête du Sacré-Cœur. Il institue une fête. Ainsi, en se reconnaissant coupable et en reconnaissant qu'on lui doit tout, alors nous pouvons commencer à faire la fête. Ça ressemble à la parabole de l'enfant prodigue, non ? Amour du prochain. Pendant son noviciat, le Seigneur lui montre peu à peu ses desseins sur elle. « Je t'ai amené ici pour le rétablissement de la charité fraternelle dans cette communauté. » Car tout un groupe de sœurs s'est relâché. Elles vivent matériellement leur vie religieuse en oubliant l'amour, le support et l'attention mutuelle, les relations fraternelles. On se permet de mauvais jugements sur les autres, des critiques par derrière. Dans une notable partie de la communauté, il n'y a pas l'union des cœurs. Et Jésus lui montre qu'il faut s'atteler avec patience à ce rétablissement, que ce sera long et difficile, qu'il lui faudra traverser un grand nombre d'épreuves. Il désire qu'elle accepte librement. Mais lui conduira tout. Il lui promet qu'il sera toujours avec elle. Amour de Dieu. Et peu après, il commence à lui signifier sa seconde mission, celle que nous connaissons bien, celle des apparitions du Sacré-Cœur. Faire connaître son amour aux hommes et demander un retour d'amour des hommes à Dieu. On ne peut aimer Dieu si on n'aime pas son prochain. C'est bien dans cet ordre que Dieu lui manifeste ses desseins sur elle et sur la communauté. À la troisième grande apparition, sur la demande du Seigneur, elle confie tout au Père la Colombière, à présent son confesseur. On peut remarquer que tant que la communauté ne sera pas pleinement rétablie dans la charité, et ça va prendre plus de 12 ans, tant que ce n'est pas fait, lui seul, le Père La Colombière, d'abord en Angleterre, puis à Lyon, pourra commencer la mission du Sacré-Cœur. Il fallait en premier rétablir la charité entre celles qui n'en vivaient plus vraiment, avant que la communauté puisse témoigner de l'amour du Christ. Le grand tournant dans sa vie, elle a 30-31 ans. Nuit du 20 novembre 1677. Un épisode dont on parle peu parce que difficile à comprendre, difficile à analyser quand on n'est pas bien au courant des coutumes monastiques et des imprévus de Dieu. Le Seigneur lui demande d'initier radicalement cette conversion d'une partie de la communauté à la façon même des grands prophètes de la Bible, par un acte public qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne comprendra que peu à peu, où elle se trouve quasi immolée dans une complète humiliation qui va bouleverser la communauté, mais qui renouvellera celle-ci en profondeur au fil des mois et des années. C'est ce qu'on a pris l'habitude d'appeler la nuit d'agonie, au cours de laquelle la lâcheté et la médiocrité des sœurs coupables sera mise au jour. Son geste, commandé par le Seigneur et fait sous la responsabilité de sa supérieure, va exciter, surexciter les pauvres sœurs, à tel point que toute une troupe au petit matin se précipite chez la supérieure pour la supplier de faire venir d'urgence plusieurs confesseurs. « Oh, ma mère, avant que n'ait lieu la messe, le renouvellement public des vœux, la communion, après ce qu'on a vécu, ce n'est pas possible que j'y participe comme ça. » Les confessions ont lieu. À partir de ce moment, les sœurs vont commencer à progresser comme le demande le Seigneur. Et il dit à Marguerite Marie, « Enfin, la paix est faite. » De quoi s'agit-il? On peut difficilement en quelques mots, mais c'est simplement des actes en parole. Et c'est un acte de correction fraternelle qui a cours, mais de cette façon-là, d'une façon assez exceptionnelle, et ça n'est jamais une sœur de 31 ans qui fait ainsi la leçon à toute la communauté. D'où surexcitation des sœurs, qui ensuite sont complètement retournées d'avoir cédé à tant de débordements en méprisant le grand silence monastique et la charité fraternelle. Et du coup, ça retourne tout le monde. 31 décembre 1678, le Seigneur lui commande ce jour-là de dresser en sa faveur un testament écrit, une donation entière et sans réserve de tout ce que je pourrais faire et souffrir, et de toutes les prières et biens spirituels que l'on ferait pour moi. De faire ce testament en bonne forme et devant un notaire, qui sera sa supérieure. Abandonner tout ce qu'on a fait de bien, tout mérite, c'est quitter le sentiment de sécurité qu'on met spontanément dans ce que l'on fait, pour le laisser faire, lui, le Seigneur. Et c'est bien le passage de la première conception de la religion dominante à son époque. Être en règle pour mériter son ciel et gagner des mérites pour soi ou pour les autres. Quitter cela pour s'ouvrir à la conception tout autre, vivre dans l'intimité de Dieu comme fils ou fille dans la maison du Père. Aussitôt cet acte fait, Jésus lui déclare que puisque son amour m'avait dépouillé de tout, il ne voulait plus que j'eusse d'autres richesses que celles de son Sacré-Cœur. Et voilà que lui-même fait solennellement un testament en sa faveur. Je te constitue héritière des trésors de mon Sacré-Cœur pour en disposer à ton gré en faveur de qui tu voudras. Ce cœur sera ta caution qui répondra et paiera pour toi. Et tu ne manqueras de secours que lorsqu'il manquera de puissance. Elle ajoute, il m'a fait voir qu'il ne me donnait pas ses bienfaits seulement pour moi, mais pour les distribuer aux autres. Comment ne serait-ce pas pour nous la source d'une entière confiance ? Mariage mystique, été ou automne 1684, pendant sa retraite annuelle. Grande amoureuse de Dieu, toute sa vie a été sous-tendue par l'amour. Un amour très affectif, mais étonnant paradoxe, un amour pas du tout sentimental. Sensible, oui, et combien. Mais elle ne fait rien mousser, pas même à ses propres yeux. Elle ne raconte rien, tout comme elle ne sait jamais raconter. Tout ce que nous savons d'elle par elle-même, elle l'a écrit uniquement parce qu'elle s'y trouvait obligée par l'obéissance religieuse et que le Seigneur le commandait ainsi. Il a même fallu que le Seigneur use, on peut dire, de stratagèmes pour que ses écrits parviennent jusqu'à nous. Il lui a laissé croire que nul autre ne les lirait que son confesseur et ou sa supérieure, et que ses papiers seraient brûlés ensuite. Elle écrit donc que le Seigneur lui a donné de vivre le mariage spirituel, ce qui est considéré comme la plus grande expérience mystique qu'on puisse connaître sur cette terre. Mais ça, elle ne le dit pas. Elle écrit cela une fois seulement, en 7 lignes d'une sobriété impressionnante, où elle appelle principalement à l'adoration eucharistique et en somme ne décrit rien. De grandes mystiques ont vécu avant elle cette expérience, des saintes très illustres, Et l'on voit que cela donne lieu le plus souvent à des descriptions lyriques dans un langage très imagé. Bagues d'épousailles ornées de pierres précieuses, cérémonies émouvantes et grandioses. Rien de semblable chez elle. Pour ma part, je ne connais pas une sainte avoir la sobriété que montre sainte Marguerite Marie. Cela présume aussi qu'elle est alors toute tendue vers Dieu, sans nul retour sur elle-même. 1690, elle a 49 ans. Pardon, excusez-moi, elle a 43 ans. Quelques semaines avant sa mort, ses dernières paroles de retraite. Ô mon Dieu, je vous dois tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Et tout ce que j'ai fait de bien ne saurait réparer la moindre de mes fautes que par vous-même. Je suis insolvable, vous le voyez bien. Mais mettez-moi en prison, j'y consens, pourvu que ce soit dans votre sacré cœur. Et tenez-moi là, captive, et enchaînez-moi par les chaînes de votre amour, jusqu'à ce que je vous ai payé tout ce que je vous dois. Et comme je ne le pourrai jamais faire, aussi désirais-je de n'en jamais sortir.
Merci beaucoup, sœur Marguerite Marie, pour votre humilité et votre joie de nous avoir partagé ces secrets de la vie de sainte Marguerite Marie.